Hooligan. Hardigan présente La Traque de l'Aigle. Les Aigles de l'Empire, tome 3, de Simon Scarrow, traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Benoît Domis, lu par François Montagu. À Joseph et Nicolas, merci pour les stimulants duels. Chapitre 1er. Des éclairs en nappe figèrent un instant la houle tumultueuse. Autour de la trirème, la mer écumeuse s'immobilisa, alors que les matelots et le gréement projetaient des ombres austères sur le pont brillamment éclairé. Puis le bâtiment replongea dans les ténèbres. De gros nuages noirs et bas venus du nord déferlaient sur les flots. Bien que la nuit ne tombe pas encore, l'équipage et les passagers terrifiés eurent pourtant l'impression que le soleil avait déserté le monde. Seule trace de son séjour, une traînée d'un gris plus clair dans le ciel au loin, vers l'ouest. Le préfet, nommé à la tête de l'escadrille récemment formée, jura. Son convoi s'était complètement dispersé. Fermement agrippé à un hauban d'une main, il mit l'autre en visière pour se protéger les yeux des embruns glacés et scruter le haut des lames qui les cernaient. Les silhouettes sombres de deux navires apparurent à l'ouest, alors que son vaisseau amiral chevauchait la crête d'une grande vague. Derrière eux se trouvait le reste du convoi, éparpillé sur la mer déchaînée. Peut-être parviendrait-il tout de même à atteindre le chenal qui menait à Rutupiae. En revanche, lui n'avait aucun espoir de rejoindre l'immense centre de ravitaillement de l'armée romaine. Plus à l'intérieur des terres, les légions prenaient leur quartier d'hiver à Camulodunum en attendant de repartir en campagne. En dépit des meilleurs efforts des galériens, ils s'éloignaient rapidement de Rutupiae. Regardant au-delà des vagues en direction de la ligne sombre de la côte bretonne, le préfet reconnut amèrement sa défaite face à la tempête et donna l'ordre de rentrer les rames. Il passa en revue les solutions qui s'offraient à lui, tandis que l'équipage se hâtait de lever une petite voile triangulaire à la proue pour l'aider à stabiliser la trirème. Depuis le début de l'invasion l'été dernier, il avait fait la traversée des dizaines de fois, mais jamais dans des conditions si épouvantables. Le temps avait changé tellement vite. Ce matin, qui semblait bien loin à présent, le ciel dégagé et un vif vent du sud promettaient un trajet rapide vers Jezoriacum. Normalement, aucun bateau ne prenait la mer en hiver, mais l'armée du général Plautius avait besoin de ravitaillement. À cause de la tactique de la terre brûlée du chef breton Caratacos, les légions dépendaient d'approvisionnements réguliers en céréales depuis le continent pour ne pas épuiser les réserves nécessaires à la poursuite de la campagne au printemps. Les convois avaient donc continué de multiplier les traversées dès que le temps le permettait. Ce matin, la nature perfide avait berné le préfet, qui avait donné l'ordre à ses vaisseaux chargés de se mettre en route pour Rutupiae, sans imaginer un instant qu'il serait pris dans une tempête. En vue du littoral breton, une bande de nuages sombres avait épaissi au nord sur l'horizon. La brise n'avait pas tardé à se renforcer et avait brusquement changé de direction. Avec un effroi grandissant, les matelots avaient vu les nuages menaçants avancer sur eux, tels des bêtes voraces, l'écume aux lèvres. Le grain avait frappé la trirème du préfet avec une soudaineté alarmante. Le vent hurlant l'avait saisi par le barreau et l'avait fait pencher si bas que l'équipage avait dû, toutes affaires cessantes, se cramponnait à la prise la plus proche pour ne pas passer par-dessus bord. Alors que son bâtiment se redressait lourdement, le préfet avait jeté un coup d'œil au reste de son escadrille. Certains des transports à fond plat s'étaient retournés sur eux-mêmes. À proximité des bosses sombres,